Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revoici donc dans nos lectures en liberté. En compagnie de Bardamu, le héros de Louis-Ferdinand Céline dans Voyage au bout de la nuit. Pris dans les coursives de l'amiral Bragueton. Je ressentis en entendant ces mots un immense soulagement. J'avais redouté quelques mises à mort imparables, mais il m'offrait, puisqu'il parlait, le capitaine, une manière de leur échapper. Je me ruai vers cette aubaine. Toute possibilité de lâcheté devint une magnifique espérance à qui s'y connaît. C'est mon avis. Il ne faut jamais se montrer difficile sur le moyen de se sauver de l'étripade, ni perdre son temps non plus à rechercher les raisons d'une persécution dont on est l'objet. Y échapper suffit aux sages. « Capitaine, lui répondis-je avec toute la voix convaincue dont j'étais capable dans le moment, quelle extraordinaire erreur vous alliez commettre, vous, moi. Comment me prêter à moi les sentiments d'une semblable perfidie? C'est trop d'injustice en vérité. J'en ferai, capitaine, une maladie. Comment? Moi, hier encore défenseur de notre chère patrie, moi, dont le sang s'est mêlé au vôtre pendant des années, au cours d'innombrables batailles, de quelle injustice alliez-vous m'accabler, capitaine? Puis, m'adressant au groupe entier, de quelle abominable médisance, messieurs, êtes-vous devenus les victimes? Allez jusqu'à penser que moi, votre frère en somme, je m'entêtais à répandre d'immondes calomnies sur le compte d'héroïques officiers, mais c'est trop, vraiment c'est trop. Et cela au moment même où ils s'apprêtent, ces braves, ces incomparables braves, à reprendre avec quel courage la garde sacrée de notre immortel empire colonial, poursuivis-je. Là où les plus magnifiques soldats de notre race se sont couverts d'une gloire éternelle, les Mangins, les Fédèrbes, les Gallieni, ah, capitaine, moi, ça! Je me tins en suspens. J'espérais être émouvant. Bien heureusement, je le fus un petit instant. S'entraîner alors, profitant de cet armistice de bafouillage, j'allai droit à lui et lui serrai les deux mains dans une étreinte d'émotion. J'étais un peu tranquille, ayant ses mains enfermées dans les miennes. Tout en les lui tenant, je continuais à m'expliquer avec volubilité. Et tout en lui donnant mille fois raison, je l'assurais que tout était à reprendre entre nous et par le bon bout cette fois. Que ma naturelle et stupide timidité seule se trouvait à l'origine de cette fantastique méprise. Que ma conduite certes aurait pu être interprétée comme un inconcevable dédain par ce groupe de passagers et de passagères, héros et charmeurs mélangés, providentielle réunion de grands caractères et de talents, sans oublier les dames, incomparables musiciennes, ces ornements du bord. Tout en faisant largement amende honorable, je sollicitais pour conclure qu'on m'admît sans y sursoir et sans restriction aucune au sein de leur joyeux groupe patriotique et fraternel. Où je tenais dès ce moment et pour toujours à faire très aimable figure. Sans lui lâcher les mains, bien entendu, je redoublai d'éloquence. Tant que le militaire ne tue pas, c'est un enfant. On l'amuse aisément. N'ayant pas l'habitude de penser, dès qu'on lui parle, il est forcé, pour essayer de vous comprendre, de se résoudre à des efforts accablants. Le capitaine Frémison ne me tuait pas. Il n'était pas en train de boire non plus. Il ne faisait rien avec ses mains, ni avec ses pieds. Il essayait seulement de penser. C'était énormément trop pour lui. Au fond, je le tenais par la tête. Graduellement, pendant que durait cette épreuve d'humiliation, je sentais mon amour-propre, déjà prêt à me quitter, s'estomper encore davantage, et puis me lâcher, m'abandonner tout à fait, pour ainsi dire, officiellement. On a beau dire, c'est un moment bien agréable. Depuis cet incident, je suis devenu pour toujours infiniment libre et léger, moralement s'entend. C'est peut-être de la peur qu'on a le plus souvent besoin pour se tirer d'affaire dans la vie. Je n'ai jamais voulu, quant à moi, d'autres armes depuis ce jour, ou d'autres vertus. Les camarades du militaire, indécis à présent eux aussi, venus là exprès pour éponger mon sang et jouer aux osselets avec mes dents éparpillées, devaient pour tout triomphe se contenter d'attraper des mots dans l'air. Les civils accourus, frémissant à l'annonce d'une mise à mort, arboraient de sales figures. Comme je ne savais pas au juste ce que je racontais, sauf à demeurer à toute force dans la note lyrique, tout en tenant les mains du capitaine, je fixais un point idéal dans le brouillard moelleux à travers lequel l'amiral Bragueton avançait en soufflant et crachant d'un coup d'hélice à l'autre. Enfin, je me risquais, pour terminer, à faire tournoyer un de mes bras au-dessus de ma tête. En lâchant une main du capitaine, une seule, je me lançais dans la péroraison. Entre braves, messieurs les officiers, doit-on pas toujours finir par s'entendre ? Vive la France, alors, nom de Dieu, vive la France ! C'était le truc du sergent Brandelor. Il réussit encore dans ce cas-là. Ce fut le seul cas où la France me sauva la vie. Jusque-là, c'était plutôt le contraire. J'observais parmi les auditeurs un petit moment d'hésitation, mais tout de même, il est bien difficile à un officier aussi mal disposé qu'il puisse être de gifler un civil publiquement au moment où celui-ci crie si fortement que je venais de le faire « Vive la France !» Cette hésitation me sauva. J'empoignai deux bras au hasard dans le groupe des officiers et invitai tout le monde à venir se régaler au bar à ma santé et à notre réconciliation. Ces vaillants ne résistèrent qu'une minute, et nous bûmes ensuite pendant 2 heures. Seulement les femelles du bord nous suivaient des yeux, silencieuses et graduellement déçues. Par les hublots du bar, j'apercevais entre autres la pianiste institutrice entêtée qui passait et revenait au milieu d'un cercle de passagères, la hyène. Elle soupçonnait bien ces garces que je m'étais tiré du guet-apens par ruse et se promettait de me rattraper au détour. Pendant ce temps, nous buvions indéfiniment entre hommes, sous l'inutile mais abrutissant ventilateur qui se perdait à moudre depuis les Canaries le coton tiède atmosphérique. Il me fallait cependant encore retrouver de la verve, de la faconde, qui puisse plaire à mes nouveaux amis, de la facile. Je ne tarissais pas. Peur de me tromper, en admiration patriotique, et je demandais et redemandais à ces héros, chacun son tour, des histoires et encore des histoires de bravoure coloniale. C'est comme les cochonneries, les histoires de bravoure. Elles plaisent toujours à tous les militaires de tous les pays. Ce qu'il faut au fond pour obtenir une espèce de paix avec les hommes, officiers ou non, armistice fragile il est vrai, mais précieux quand même, c'est leur permettre en toutes circonstances de s'étaler, de se vautrer parmi les vantardises niaises. Il n'y a pas de vanité intelligente, c'est un instinct. Il n'y a pas d'homme non plus qui ne soit pas avant tout vaniteux. Le rôle du paillasson admiratif est à peu près le seul dans lequel on se tolère d'humain à humain avec quelque plaisir. Avec ces soldats, je n'avais pas à me mettre en frais d'imagination. Il suffisait de ne pas cesser d'apparaître émerveillé. C'est facile de demander et de redemander des histoires de guerre. Ces compagnons-là en étaient bardés. Je pouvais me croire revenu au plus beau jour de l'hôpital. Après chacun de leurs récits, je n'oubliais pas de marquer mon approbation, comme je l'avais appris de Brandelore, par une forte phrase. « Eh bien, en voilà une belle page d'histoire !» On ne fait pas mieux que cette formule. Le cercle auquel je venais de me rallier si furtivement me jugea peu à peu devenu intéressant. Ces hommes se mirent à raconter à propos de guerre autant de balivernes qu'autrefois j'en avais entendu et plus tard raconté moi-même, alors que j'étais en concurrence imaginative avec les copains de l'hôpital. Seulement leur cadre à ceux-ci était différent, et leurs bobards s'agitaient à travers les forêts congolaises au lieu des Vosges ou des Flandres. Mon capitaine Frémison, celui qui l'instant d'auparavant se désignait encore pour purifier le bord de ma putride présence, depuis qu'il avait éprouvé ma façon d'écouter plus attentivement que personne, se mit à me découvrir mille gentilles qualités. Le flux de ses artères se trouvait comme assoupi par l'effet de mes originaux éloges. Sa vision s'éclaircissait. Ses yeux striés et sanglants d'alcoolique tenace finirent même par scintiller à travers son abrutissement et les quelques doutes en profondeur qu'il avait pu concevoir sur sa propre valeur et qu'il l'effleurait encore dans les moments de grande dépression, s'estompèrent, pour un temps, adorablement, par l'effet merveilleux de mes intelligents et pertinents commentaires. Décidément, j'étais un créateur d'euphorie. On s'en tapait à tour de bras les cuisses. Il n'y avait que moi pour savoir rendre la vie agréable malgré toute cette moiteur d'agonie. N'écoutais-je pas d'ailleurs à ravir ? L'amiral Bragueton, pendant que nous divaguions ainsi, passait à plus petite allure encore. Il ralentissait dans son jus. Plus un atome d'air mobile autour de nous, nous devions longer la côte et si lourdement qu'on semblait progresser dans la mélasse. Mélasse aussi le ciel au-dessus du bordage, rien qu'un emplâtre noir et fondu que je guignais avec envie. Retourner dans la nuit, c'était ma grande préférence, même suant et geignant, et puis d'ailleurs dans n'importe quel état. Frémison n'en finissait pas de se raconter. La terre me paraissait tout proche, mais mon plan d'escapade m'inspirait mille inquiétudes. Peu à peu, notre entretien cessa d'être militaire pour devenir égrillard, et puis franchement cochon, enfin si décousu qu'on ne savait plus par où le prendre pour continuer. L'un après l'autre, mes convives y renoncèrent et s'endormirent, et le ronflement les accabla, dégoûtant sommeil qui leur raclait les profondeurs du nez. C'était le moment ou jamais de disparaître. Il ne faut pas laisser passer cette rêve de cruauté qu'impose malgré tout la nature aux organismes les plus vicieux et les plus agressifs de ce monde. Nous étions ancrés à présent à très petite distance de la côte. On n'en apercevait que quelques lanternes oscillantes le long du rivage. Tout le long du bateau vinrent se presser très vite cent tremblantes pirogues chargées de nègres braillards. Ces noirs assaillirent tous les ponts pour offrir leur service. En peu de secondes, je portai à l'escalier de départ mes quelques paquets préparés furtivement et filai à la suite d'un de ces bateliers dont l'obscurité me cachait presque entièrement les traits et la démarche. Au bas de la passerelle et au ras de l'eau clapotante, je m'inquiétais de notre destination. « Où sommes-nous ? » demandai-je. « À Bambola Fort Gono, » me répondit cette ombre. Je retrouvai la terre peu d'instants plus tard, et la nuit, plus épaisse encore sous les arbres. Et puis, derrière la nuit, toutes les complicités du silence.
Puerto. ocean. Let it sink back in the ocean. Always the hurricanes blowing. Always the population growing. And the money owing. And the sunlight streaming. And the natives steaming. I like the island Manhattan.
I know you do.
Smoke on your pipe. And good let it.
Forest will be in America.
Okay. Buying on credit is so nice.
One look at us and they charge twice.
I have my own washing machine.
What will you have though to keep clean?
Skyscrapers bloom in America. Cadillacs bloom in America. Industry boom in America.
12 in a room in America.
New housing with more space.
Lots of doors slamming in our face.
I'll get a terrace apartment.
Better get rid of your accent.
Life can be bright in America.
If you can fight in America.
Life is all right in America.
If you're all white in America.
As you stay on your own side.
Free to be anything you choose.
Free to wear devils and shine shoes.
Everywhere crime in America. Organized crime in America. Terrible time in America.
You forget I'm in America.
I go back to San Juan.
I know a boat you can get on. Bye-bye.
Uh-huh. Everyone there will give big cheer.
Hey! Everyone there will have moved here.
Et le morceau de musique qui s'estompe nous ramène aux aventures de Bardamu, le héros de Louis-Ferdinand Céline dans Le Voyage au bout de la nuit. Nous allons retrouver Bardamu à New York, qu'il aborde après un séjour en Afrique.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
New York. Pour une surprise, c'en fut une. À travers la brume, c'était tellement étonnant ce qu'on découvrait soudain que nous nous refusâmes d'abord à y croire. Et puis tout de même, quand nous fûmes en plein devant les choses, tout galérien qu'on était, on s'est mis à bien rigoler, en voyant ça, droit devant nous. Figurez-vous qu'elle était debout, leur ville, absolument droite. New York, c'est une ville debout. On en avait vu déjà des villes, bien sûr, et des belles encore, et des ports, et des fameux même. Mais chez nous, n'est-ce pas, elles sont couchées, les villes, au bord de la mer ou sur les fleuves. Elles s'allongent sur le paysage, elles attendent le voyageur. Tandis que celle-là, l'américaine, elle ne se pâmait pas, non ? Elle se tenait bien raide, là, pas baisante du tout, raide à faire peur. On en a rigolé comme des cornichons. Ça fait drôle, forcément, une ville bâtie en raideur. Mais on n'en pouvait rigoler, nous, du spectacle, qu'à partir du coup, à cause du froid qui venait du large pendant ce temps-là, à travers une grosse brume grise et rose, et rapide et piquante, à l'assaut de nos pantalons et des crevasses de cette muraille, les rues de la ville, où les nuages s'engouffraient aussi à charge du vent. Notre galère tenait son mince sillon juste au ras des jetées, là où venait finir une eau caca, toute barbotante d'une kyrielle de petits bachots et remorqueurs avides et cornards. Pour un miteux, il n'est jamais bien commode de débarquer nulle part. Mais pour un galérien, c'est encore bien pire. Surtout que les gens d'Amérique n'aiment pas du tout les galériens qui viennent d'Europe. C'est tous des anarchistes, qu'ils disent. Ils ne veulent recevoir chez eux, en somme, que les curieux qui leur apportent du pognon, parce que tous les argents d'Europe, c'est des fils à dollars. J'aurais peut-être pu essayer, comme d'autres l'avaient déjà réussi, de traverser le port à la nage et puis, une fois au quai, de me mettre à crier « Vive dollar ! Vive dollar !» C'est un truc. Il y a bien des gens qui sont débarqués de cette façon-là et qui, après ça, ont fait des fortunes. C'est pas sûr, ça se raconte seulement. Il en arrive dans les rêves des bien pires encore. Moi, j'avais une autre combinaison en tête, en même temps que la fièvre. À bord de la galère, ayant bien appris à bien compter les puces, pas seulement à les rattraper, mais à en faire des additions et des soustractions, en somme, des statistiques, métier délicat qui n'a l'air de rien, mais qui constitue bel et bien une technique, je voulais m'en servir. Les Américains, on peut en dire ce qu'on voudra, mais en fait, de technique, c'est des connaisseurs. Ils aimeraient ma manière de compter les puces jusqu'à la folie, j'en étais certain d'avance. Ça ne devait pas rater, selon moi. J'allais leur offrir mes services quand tout à coup, on donna l'ordre à notre galère d'aller passer une quarantaine dans une anse, d'à côté, à l'abri, à portée de voix d'un petit village réservé au fond d'une baie tranquille, à 2 miles à l'est de New York. Et nous demeurâmes tous là en observation pendant des semaines et des semaines. Si bien que nous prîmes des habitudes. Ainsi, chaque soir, après la soupe, se détachait de notre bord pour aller au village l'équipe de la provision d'eau. Il fallait que j'en fasse partie pour arriver à mes fins. Les copains savaient bien où je cherchais à en venir, mais eux, ça ne les tentait pas l'aventure. Il est fou, qu'il disait, mais il n'est pas dangereux. Sur l'Infanta Combita, on bouffait pas mal. On les triquait un peu, les copains, mais pas trop. Et en somme, ça pouvait aller. C'était du bon boulot, moyen. Et puis, sublime avantage, on les renvoyait jamais de la galère, et même que le roi leur avait promis, pour quand ils auraient 62 ans d'âge, une espèce de petite retraite. Cette perspective les rendait heureux. Ça leur donnait de quoi rêver. Le dimanche, pour se sentir libre, au surplus, ils jouaient à voter. Pendant les semaines qu'on nous imposa la quarantaine, ils rugissaient tous ensemble dans l'entrepont. Ils s'y battaient et s'y pénétraient aussi tour à tour. Et puis enfin, ce qui les empêchait de s'échapper avec moi, c'est surtout qu'ils ne voulaient rien entendre ni savoir de cette Amérique dont j'étais, moi, féru. chacun ses monstres. Eux, c'était l'Amérique, leur bête noire. Ils cherchèrent même à m'en dégoûter tout à fait. J'avais beau leur dire que je connaissais des gens dans ce pays-là, ma petite Lola, entre autres, qui devait être bien riche à présent, et puis sans doute le Robinson, qui devait s'y être fait une situation dans les affaires, ils ne voulaient pas en démordre de leur aversion pour les États-Unis, de leur dégoût, de leur haine. « Tu cesseras jamais d'être tapé !» qu'ils me disaient. Un jour, j'ai fait comme si j'allais avec eux au robinet du village, et puis je leur ai dit que je ne rentrerai pas à la galère. Salut. C'étaient des bons gars, au fond, bien travailleurs. Et ils m'ont bien répété encore qu'ils ne m'approuvaient pas du tout, mais ils me souhaitèrent quand même du bon courage et de la bonne chance, et bien du plaisir, avec mes à leur façon. Va, qu'ils m'ont dit, va. Mais on te prévient encore, t'as pas des bons goûts pour un pouilleux. C'est ta fièvre qui te rend dingo. T'en reviendras de ton Amérique et dans un état pire que nous. C'est tes goûts qui te perdront. Tu veux apprendre? T'en sais déjà bien trop pour ta condition. J'avais beau leur répondre que j'avais des amis dans l'endroit qui m'attendaient. Je bafouillais. Des amis qu'ils faisaient comme ça, eux, des amis. Mais ils s'en foutent bien de ta gueule, tes amis. Mais il y a longtemps qu'ils t'ont oublié, tes amis. Mais je veux voir des Américains, moi, que j'avais beau insister. Et même qu'ils ont des femmes comme il n'y en a pas ailleurs. Mais rentre donc avec nous, et bille, qu'il me répondait. C'est pas la peine d'y aller qu'on te dit, tu vas te rendre malade, pire que t'es. On va te renseigner tout de suite, nous autres, sur ce que c'est que les Américains. C'est tout millionnaire ou tout charogne, il n'y a pas de milieu. Toi, tu les verras sûrement pas, les millionnaires, dans l'état que t'arrives. Mais pour la charogne, tu peux compter qu'ils vont t'en faire bouffer. Là, tu peux être tranquille, et pas plus tard que tout de suite. Voilà comment qu'ils m'ont traité, les copains. Ils m'horripilaient tous à la fin, ces ratés, ces enculés, ces sous-hommes. « Foutez-moi le camp tous !» que je leur ai répondu. « C'est la jalousie qui vous fait baver, et voilà tout. S'ils me font crever, les Américains, on le verra bien. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que pour autant que vous êtes, c'est rien qu'un petit four que vous avez entre les jambes et encore un bien mou. Ah, c'était envoyé, ça, j'étais content. » Comme la nuit arrivait, on les siffla de la galère. Ils se sont remis à ramer, tous en cadence, moins un, moi. J'ai attendu de ne plus les entendre, plus du tout. Et puis j'ai compté jusqu'à 100. Et alors j'ai couru aussi fort que je pouvais jusqu'au village, un petit endroit coquet que c'était le village, bien éclairé, des maisons en bois qui attendaient qu'on s'en serve, disposées à droite, à gauche, d'une chapelle, toute silencieuse elle aussi. Seulement j'avais des frissons, le paludisme, et puis la peur. Par-ci, par-là, on rencontrait un marin de cette garnison qui n'avait pas l'air de s'en faire, et même des enfants, et puis une fillette, joliment bien musclée, l'Amérique. J'étais arrivé. C'est ça qui fait plaisir à voir après tant de sèches aventures. Ça remet comme un fruit dans la vie. J'étais tombé dans le seul village qui ne servait à rien. Une petite garnison de famille de marins le tenait en bon état, avec toutes ses installations pour le jour éventuel où une peste rageuse arriverait par un bateau comme le nôtre et menacerait le grand port. C'était alors dans ces installations qu'on en ferait crever le plus possible des étrangers pour que les autres de la ville n'attrapent rien. Ils avaient même un cimetière fin prêt, à proximité, et planté de fleurs partout. On attendait. Depuis 60 ans, on attendait. On ne faisait rien qu'attendre. Ayant trouvé une petite cabane vide, je me suis faufilé et j'ai dormi tout de suite. Et dès le matin, ce ne furent que marins dans les ruelles, court vêtus, cadrés et balancés. Faut voir comme, à jouer du balai et gicler le seau d'eau autour de mon refuge et par tous les carrefours de ce village théorique. J'avais beau garder un petit air détaché, j'avais tellement faim que je m'approchais malgré tout d'un endroit où ça sentait la cuisine. C'est là que je fus repéré et puis coincé entre deux escouades bien résolues à m'identifier. Il fut tout aussitôt question de me foutre à l'eau. mené par les voies les plus rapides devant le directeur de la quarantaine, je n'emmenais pas large et bien que j'eusse pris quelques culots dans la constante adversité, je me sentais encore trop imbibé de fièvre pour me risquer à quelque improvisation brillante. Je battais plutôt la campagne, et le cœur n'y était pas. Mieux valait perdre connaissance. Ce qui m'arriva. Dans son bureau, où je retrouvai mes esprits plus tard, quelques dames vêtues de clair avaient remplacé les hommes autour de moi. Je subis de leur part un questionnaire vague et bienveillant dont je me serais tout à fait contenté. Mais aucune indulgence ne dure en ce monde, et dès le lendemain, les hommes se remirent à me reparler de la prison. J'en profitai pour leur parler, moi, des puces, comme ça, sans en avoir l'air, que je savais les attraper, les compter, que c'était mon affaire, et aussi de grouper ces parasites en véritables statistiques. Je voyais bien que mes allures les intéressaient, les faisaient tiquer mes gardes. On m'écoutait. Mais quant à me croire, c'était une autre paire de manches. Enfin surgit le commandant de la station lui-même. Il s'appelait le surgeon général, ce qui serait un beau nom pour un poisson. Lui se montra grossier, mais plus décidé que les autres. « Que nous racontez-vous, mon garçon ?» me dit-il. « Que vous savez compter les puces ?» Il escomptait un boniment comme celui-là pour me confondre. Mais moi, du tac au tac, je lui récitai le petit plaidoyer que j'avais préparé. J'y crois, au dénombrement des puces. C'est un facteur de civilisation parce que le dénombrement est à la base d'un matériel de statistiques des plus précieux. Un pays progressiste doit connaître les nombres de ses puces divisés par sexe, groupe d'âge, année et saison. Allons, allons, assez palabré, jeune homme, me coupa-t-il. Il en est venu avant vous, ici, bien d'autres de ces gaillards d'Europe qui nous ont raconté des bobards de ce genre, mais c'était en définitive des anarchistes, comme les autres, pire que les autres. Ils ne croyaient même plus à l'anarchie. Trêve de vantardise, demain, on vous essaiera sur les émigrants d'en face, à Ellis Island, au service des douches. Mon aide-major, monsieur Mischief, mon assistant, me dira si vous avez menti. Depuis 2 mois, Monsieur Mischief me réclame un agent compte-puce. Vous irez chez lui à l'essai, rompez. Et si vous nous avez trompés, on vous foutra à l'eau, rompez, et gare-vous. Je sus rompre devant cette autorité américaine comme j'avais rompu devant tant d'autres autorités, en lui présentant donc ma verge d'abord, et puis mon derrière, par suite d'un demi-tour preste, le tout accompagné d'un salut militaire. Nous avons terminé pour ce soir. Cet extrait du roman de Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, et nous retrouverons Bardamu demain dans la suite de ses aventures new-yorkaises. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.